Qu'elle soit la Georgette du fabuleux dessin d'Amélie Poulain ou Cathy Tuche, aucune de ses apparitions cinématographiques ne passe inaperçue. Elle s'est fait connaître aux côtés de Dati Naniel et plus de 70 films plus tard, c'est le petit écran qu'elle crève en incarnant le rôle principal de la série Munch. Également femme de théâtre, elle vient de signer la mise en scène de la pièce L'Hôtel du Libre-Échange avec la troupe de la Comédie Française. La désormais mythique Isabelle Nanty est avec nous ce matin sur Europe 1.
Merci pour cet accueil. Bonjour Isabelle Nanty.
Bonjour, vous allez bien?
Très bien. Comment on se retrouve à faire une mise en scène à la Comédie Française? C'est la classe absolue, ça, non?
Ah ouais.
Ouais.
Ben, on se retrouve. Éric Ruff, qui est l'administrateur, m'a proposé d'abord de mettre en scène un conte pour enfants. Et puis, en fait, quelques semaines après, il m'a dit non, on va faire un Fédo. Et voilà. Et puis, je me suis retrouvée avec cette merveilleuse troupe qui est constituée d'individus.
Oui.
Non, mais parce que c'est vraiment ça, quoi.
De talent, surtout.
De talent extraordinaire.
Ouais.
Vraiment, ce sont des virtuoses, des athlètes du sentiment.
Ils vous ont accueilli comment, alors? Parce que vous n'étiez pas du Sérail.
Non, je suis pas, et je ne suis toujours pas.
Oui.
Bien, enfin, on s'est beaucoup amusé.
Ouais.
Et puis.
Et le public s'amuse beaucoup avec la pièce.
Ouais. Ouais, bah la pièce, elle est, c'est fait d'eau. Hein.
Mais moi, alors L'Hôtel du Libre-Échange, moi j'ai appris qu'elle avait été écrite aussi avec Maurice Desvalières. J'ignorais que Fédo avait un co-auteur.
Aussi, ça lui arrivait, ouais. Beaucoup à cette époque-là, ils écrivaient à plusieurs. Hein.
Mais il reste pas dans l'histoire. Un peu moins.
Mais co-auteur, ouais.
Alors
ouais.
Isabelle Nanty.
Bah, on ne sait jamais hein, dans les collaborations qui a fait quoi, c'est ça qui est beau.
Isabelle
aussi,
Nanty, hein. L'Hôtel du Libre-Échange, actuellement à Comédie Française, donc vous avez fait la mise en scène. L'histoire se passe dans un hôtel où des personnages viennent chercher une aventure et où tout va être possible. Il existe vraiment cet hôtel? C'est pas pour moi, c'est pour une amie qui s'appelle Anne. C'est un peu l'ancêtre de Tinder, en fait. On y croise plein de monde, mais 90% sont moches, c'est ça.
En tout cas, il y a un vent d'adolescence qui souffle sur cet hôtel. C'est-à-dire que, à l'inverse de certaines pièces de Fédo où les personnages sont désillusionnés, ça y est, ils ont bouclé la boucle, ils sont plutôt même. Ils n'écoutent plus, ils n'attendent plus rien. Là, il y a quand même. Ils espèrent encore être entendus, ils espèrent encore que leur cœur s'emballe, ils espèrent.
C'est quoi la caractéristique d'un personnage de Fédo, Isabelle Nanty, qui soit fidèle, infidèle, cocu, victime, coupable? C'est quoi?
C'est justement tout ça. Moi, ce que j'ai. On a adoré tous, les acteurs et moi, travailler sur les petites personnes que sont ces personnages. C'est-à-dire qu'ils étaient enfants. Quels rêves ils avaient et quelles désillusions.
Des costumes de Christian Lacroix aussi.
Oh, magnifique. Quelle chance j'ai eue.
Il a accepté
Christian
tout de suite.
Lacroix a fait ses premiers décors avec cette pièce. Et le décor est merveilleux. Et
comme une maison de poupée.
Comme une maison de poupée en coupe. Et les costumes. Bon, c'est Christian Lacroix, quoi. Quelle chance.
Il a accepté tout de suite?
Ouais.
C'était votre idée à vous?
Ouais. J'aime beaucoup son travail comme costumier. Mais là, le fait qu'ils fassent les deux, le décor et les costumes, ça donne une unité, une espèce de. Puis on s'est beaucoup parlé, on avait un peu les mêmes références d'enfance, parce que en fait, c'était, on a laissé la pièce dans son époque. Et le 19e et la fin du 19e, c'est les inventions, c'est donc c'est comme un grand mécano. C'est.
Et du coup, vous avez d'autres projets avec la Comédie Française, Isabelle Nanty?
Non,
non.
Pas pour le moment.
Mais puisque non, cette pièce cartonne quand même.
Ouais, c'est la troisième reprise. Enfin, c'est la troisième reprise. Ouais. On verra, je ne sais pas. Pour le moment.
Vous avez senti une pression particulière par rapport au fait que c'était la mise en scène de la Comédie Française qui change des mises en scène d'humoristes que vous avez pu faire par le passé?
Alors, ce qui me sauve, en général, dans la vie, c'est que je suis un peu inconsciente. Et que je ne me mets pas de pression.
Ouais.
Parce qu'en fait, je rencontre des êtres humains à chaque fois. Et c'est là-dessus qu'on enfin, il faut s'amuser, quoi.
Ouais. Alors moi, j'ai lu votre biographie, Isabelle Nanty.
Ma biographie.
On a fait une fiche et tout ça. Et alors j'ai appris, je savais pas du tout que vous aviez beaucoup de complexes.
Ah ouais.
Non mais c'est pour se rassurer, hein, parce qu'elle en a aussi.
Elle alors moi, mettre en valeur. Là,
alors là, elle va pas aimer Anne, mais moi j'ai connu Anne. On avait 18 ans.
Ouais. Ah la vache.
Et elle était exactement comme aujourd'hui. Exactement comme aujourd'hui. Extrêmement drôle, très originale, très singulière. Et ce que j'admire beaucoup chez Anne, c'est qu'elle s'est faite toute seule.
Ouais.
Vraiment.
Et moi, je me souviens de vous sur scène, Isabelle Nanty, dans les cours de théâtre. Vous étiez d'un naturel incroyable.
Ah oui, mais je ne m'en rendais pas compte.
Vous ne jouiez pas du tout.
Ah bon, c'est
non
vrai.
Non, mais c'était très alors... très naturel, c'était ah saisissant.
C'est toute ça la force.
Alors
du
que
jeu.
J'ai l'impression toujours de lutter contre, enfin de faire un effort pour ça.
Alors vous racontez que vous avez raté deux fois le conservatoire et deux fois la rue Blanche.
Deux fois l'école de Nanterre.
Deux fois. Moi j'ai raté trois fois la rue Blanche.
Ah bravo.
Elle me bat. Elle me bat. Mais moi, je n'ai passé qu'une fois le conservatoire, mais j'ai eu tellement de chagrin que j'ai cru mourir.
Ah ouais ouais. Et puis à l'époque. Car on peut dire comme ça.
Qu'il y avait une époque.
Eh ben oui, il y a eu une époque où l'institution était pesante. Ouais, et si l'institution ne voulait pas de vous, c'est que. En tout cas, moi, ça m'a fait ça. Hein.
Oui, on avait l'impression qu'on était foutus.
Ah ouais,
on
n'arriverait pas à être actrice. Et puis surtout qu'on était nuls. Ouais. Et donc, c'est grâce aux gens qui nous ont fait travailler. Ou qui... C'est pour ça que quand je parle d'Anne, j'ai beaucoup d'admiration. Parce que déjà extrêmement brillante et drôle. Mais c'est vrai que les rencontres, les gens qui nous tendent la main et tout ça, c'est tout ça qui fait le chemin. Et
vous vous dites que c'est Jacques Weber qui vous a donné confiance, Isabelle Nanty ?
C'est il y a Huster, oui. Il y a Weber, oui, parce que Weber, il m'a offert de faire ma première mise en scène.
À Nice ?
À Nice.
Il vous a donné une petite salle, il vous
ouais,
a dit vas-y.
Alors que je ne savais même pas que j'aimerais ça ou que j'étais, si éventuellement j'étais faite pour ça ou pas.
C'était la mise en scène de quoi ?
Alors, c'était une maison de poupée d'Ibsen. Mmh. Et avec Sandrine Dumas, Hervé Briot, Antoine Duléry, voilà.
Ouais, donc c'était une grosse mise en scène pour une première mise en scène.
Ouais, c'était dans la petite salle à Nice. Mmh. Donc, on était protégés par cette appellation petite salle. Mais bon, c'est vrai que toutes les premières fois sont mémorables, quoi. Enfin,
et alors après,
et j'avais comme costumière Virginie Viard. Ah. Ça vous dit quelque chose ?
Non.
Bah c'est la jeune dame qui reprend la suite de Karl Lagerfeld chez Chanel.
Oh, ma chère.
Vous
êtes dans la elle était déjà extrêmement douée et très Chanel. Enfin, très comme ça, très.
Ouais, vous avez un petit penchant haute couture.
Eh ben oui, en fait.
Vous
faites constater ça. Ouais. Ouais.
Alors, si j'avais su, j'aurais mis une cravate.
Bah, et moi, je suis arrivée, je suis venue comme ça, pas pour en me disant oh je vais m'habiller des contracts parce que c'est eux. Non non, je suis comme ça. Je suis même assez plutôt bien habillée par rapport à d'habitude.
Donc on explique au public que vous avez un châle
et un pull assez ample, voilà. Mais joli.
Oui, ça
épaules.
C'est pour cacher le gras.
Oh,
oh bah faut dire la vérité.
Votre père était marchand de bois, Isabelle Nanty. Vous dites que c'était quelqu'un de littéraire, distrait, fantaisiste. Et votre mère était norvégienne. Elle vous a donné une éducation protestante. Elle vous répétait tout le temps, sois toi-même.
Ouais. C'est mystérieux. Hein. Et je me surprends à dire ça à ma fille des fois. Et je me rappelle, en le disant, je dis, mais ça veut rien. Enfin, pour un jeune, on ne sait pas ce que c'est qu'être soi-même. On le sait
et vous dites que
bien plus tard.
Vous avez essayé d'être plusieurs vous-même, en fait.
Ouais.
Et c'est ce qui vous a permis d'être vous-même.
Voilà. C'est en traversant les autres que... Et aussi, dans les rencontres, hein, on se découvre. Et c'est vraiment quand même assez génial, comme il y a des gens qui vous font... qui vous révèle à vous-même, des gens avec qui vous vous sentez absolument libre ou même juste regarder tel que vous devez être révélé, en fait. Et moi, c'est ce qui me passionne, là, maintenant. Et du coup, la mise en scène, pour moi, maintenant, c'est quasiment juste regarder.
Vous dites ouais.
Et de laisser faire. Oui, parce que je pense que...
On guide quand même quand on est metteur en scène.
Oui, bien sûr, mais bon, on ne se rend pas compte de ça.
Vous dites que vous étiez pleine de fantaisie quand vous étiez petite, Isabelle Nanty. Vous dites, je ne m'ennuyais jamais, j'imaginais des jeux, je m'inventais des vies, je jouais à la dame, j'avais des sacs, des clés, une voiture, plein d'enfants. D'autres fois, j'étais une épouse attendant inlassablement mon mari qui devait rentrer de la guerre. Mmh. C'est un peu spécial quand même. Comme...
Bah oui, mais je suis née à Verdun, hein, n'oublions pas. Donc l'histoire, on était quand même empreint de cette histoire-là. Ouais, j'attendais mon mari. Et puis je trouvais qu'un mari, ça venait vous chercher. Ça venait vous chercher au travail, ça venait vous chercher pour vous emmener faire des courses.
Alors vous dites...
J'étais très classique hein, dans ma vision de la femme.
Et vous dites que la lourdeur est venue vite vers 13-14 ans. En 3 mois, vous êtes passée de petite fille toute mignonne à quelque chose de difforme. Mmh. J'avais un tour de poitrine anormal, je n'étais pas prévenue. Mmh. Je n'ai pas su quoi faire de ce corps qui changeait. J'avais l'impression de me transformer en Hulk. L'enfance dure 10 ans et puis tout d'un coup, on attrape ce corps qui sera votre compagnon de route pendant toute la vie. Mmh. C'est violent quand même de dire ça.
Oui, c'est violent. Ah, je suis un peu trash. Hein.
Ouais. Mais vous l'avez vécu comme quelque chose de si violent ?
Bah, je continue. Enfin, vous sauf que maintenant, je m'en fous. Mais
Vous dites que votre corps ne correspond pas à ce que vous êtes à l'intérieur ? C'est
non.
Ça ? C'est-à-dire, vous êtes quoi à l'intérieur ?
Ben, je pense que je suis... Je suis grande, noire et je suis chanteuse de blues.
Ah oui, alors là, évidemment.
Ah bah, évidemment, là.
Problème. Il faut se projeter un peu, ouais.
Alors, vous dites des choses dures sur vous, Isabelle Nanty. En même temps, vous accumulez les succès quand même. Meilleur jeune espoir féminin, Tati Daniel. Les visiteurs, des millions de... Ah, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Fais pas ci, fais pas ça. Les tuches, les profs 1, les profs 2, les tuches 2, les profs 2. Munch, les tuches 3.
Munch 3.
Oui.
Les tuches font du ski.
Crunch, lunch, brunch. Flunch.
Et en 2007, vous dites, j'ai mis trop de temps à... Alors, il y avait en moi des audaces de la sauvagerie qui ont été plombées. J'ai mis trop de temps à comprendre. J'ai travaillé dessus trop tard. Le constat que je fais aujourd'hui n'est pas sombre. J'ai raté ma vie, mais je l'ai plutôt bien raté. Mais non, vous n'avez pas raté votre vie, Isabelle.
On ne peut pas tout réussir, en tout cas.
Mais c'est comme, à chaque fois qu'on regarde un film avec vous, c'est vous qu'on retient. Moi, pour moi, Amélie Poulain, c'est la réplique 20 sur 20, 20 000 fois. Je ne sais plus c'est quoi. Vive la France, ah bah bravo. Pour moi, c'est ça, Amélie Poulain, c'est vous, en fait.
Ah,
en
c'est
vérité.
Gentil.
Mais bah,
c'est gentil pour Audrey Tautou. Hein.
Bah, non, mais je ne suis pas exprès.
Bah, en fait, je pense comme vous. Mais bon, il faut d'abord prendre le compliment. Et puis après, on peut nuancer le compliment en disant, franchement, vous exagérez quand même. Jean-Pierre Jeunet.
Il y a des gens dans la rue qui vous appellent Cathy Tuche.
Oui.
Parce que c'est un film qui plaît énormément aux enfants. C'est incroyable, ça. Ouais. Parce que vous dites que les Tuches n'ont pas de méchanceté, c'est ça ?
C'est des enfants. Les Tuches, ils sont enthousiastes. Ils aiment tout, plus. Et voilà. Et ils sont pas... Ils ont un goût qui est le résultat du plus. C'est-à-dire, s'ils mettent une couleur, ben, ils mettent une autre, et puis une autre, et puis une autre, et puis ça fait beaucoup de couleurs ensemble. S'ils mangent, ben, c'est des frites, mais comme ils aiment le gratin aussi, ben, ils mangent le gratin et les frites. Enfin, c'est comme les mômes.
Et dans Prof, vous avez aussi créé un personnage de professeur incroyable. Vous avez tout mis, les auréoles, la façon improbable de s'habiller. Et vos amis vous disent d'arrêter de vous déguiser. Quand ils vous ont vu dans les Profs, ils ont dit, ah ben là, ouais. Ils vous ont dit quoi ?
J'ai une amie qu'on a d'ailleurs en commun, Nathalie, qui m'a dit, oh là, il faudrait quand même un petit peu que tu soignes un petit peu. Enfin, que tu te... Enfin, tu joues un peu des rôles un petit peu où, je sais pas, t'es bien habillée.
Et vous en pensez quoi de ça, de ce genre de conseil ?
Complètement. Moi, je réponds aux invitations de mes copains. Là, c'était Pierre-François Martin Laval. J'ai une perruque rousse, j'ai des grosses lunettes. Voilà, je sais qu'on va se marrer, donc je m'occupe pas de quel aspect j'ai.
Vous dites que vous lisez rien de ce qu'on écrit sur vous dans les réseaux sociaux, Isabelle
Nanty ? Rien.
Le box-office non plus ?
D'ailleurs, j'en profite pour dire que les comptes Twitter...
ce ne sont pas les vôtres.
...sont faux. Voilà.
Parce que donc, vous, non.
Bon, ouais,
je n'ai absolument aucun réseau social, ni même Facebook, ni rien.
Même sur Tinder, parce qu'on a rendez-vous ce week-end ensemble. Je suis vachement déçue, moi.
Franchement, le jour où je serai sur Tinder, si, je ne sais pas, je serai passée d'abord à Lourdes.
Vous préfériez demander à Lourdes un homme que d'aller sur Tinder.
Ouais, je pense.
Vous avez déjà été à Lourdes ?
Non, jamais.
Bah, il faudrait peut-être.
C'est l'occasion.
Ouais. Mais par contre, j'ai de l'eau bénite chez moi qu'on m'a offert.
Ouais. C'est vrai ?
Ouais, il paraît que si j'en mets un petit peu comme ça, ça va changer ma journée. Et j'ai un peu oublié de le faire.
Ah. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit changé dans votre journée ?
Dans ma journée ?
Ouais.
Bon, non, j'aime bien. Moi, enfin, il se passe toujours un truc dans une journée. Là, en ce moment, je suis avec au théâtre Antoine avec Édouard Baird qui prépare un spectacle. Et
vous faites la mise en scène ?
Non. Non, on est là, on est plein à l'accompagner là-dedans, Eugénie Poumaillou, Marc Agige, tout ça, on est tous là. Mais
et
Edouard voilà.
Baird qui a été votre élève au cours Florent, comme les Robin des Bois aussi.
Ouais, si on peut dire que ce sont pas des élèves.
Hein. Bah quand même,
ce sont des maîtres. C'est génial comme des fois les
choses s'inversent, c'est ça.
Les situations s'inversent, même à l'époque. Hein. On pourrait croire que c'est moi qui les aide à accoucher d'un truc, mais en fait, c'est eux qui me sortent...
C'est donnant-donnant.
Ils me sauvent.
Ben, je ne sais pas s'il va vous sauver, voilà. Il a des choses à vous dire.
En parlant d'accoucher d'un truc... Isabelle,
bonne chance.
Non, on a dit accoucher, on n'a pas dit coucher.
Non, on va rester sur l'accouchement, vraiment. Isabelle Nanty, avant d'être la metteur en scène de la pièce L'Hôtel du Libre-Échange, de la Comédie Française, s'il vous plaît, vous avez également donc, mis en scène quelques one-man show et one-woman show devenus pour certains des références dans le genre. Et j'aimerais que vous ayez en tête, tout au long de ce papier, chère Isabelle Nanty, que j'écris actuellement mon nouveau spectacle, que je n'ai pas encore... genre de metteur en scène, deux informations qui, vous le verrez, n'auront strictement aucune conséquence sur l'objectivité de la chronique qui va suivre. Isabelle Nanty. Actrice majeure du début du XXIe siècle.
Très bon choix de musique.
Talent comique inné, sens du rythme et de l'interprétation, Isabelle Nanty se classe de son vivant au panthéon des comédiennes de génie. Interprète rare, transformant n'importe quel bout de texte prêt à porter en réplique haute couture, Isabelle Nanty sait mélanger talent comique et rôle plus dramatique, tel un pianiste virtuose mêlant avec brio les graves et les aigus pour faire de chacun de vos rôles une symphonie qui sonne juste. Alors quand je dis que je n'ai pas de metteur en scène, Isabelle Nanty, ce n'est pas que d'autres ont dit non avant vous, hein. C'est pas ça, c'est juste que j'ai pas encore demandé à quelqu'un. Et dans l'hypothèse où je vous enverrai mon texte, vous seriez la première. Voilà, et j'ai bien conscience que ce n'est pas du tout le sujet. Qui dit Isabelle Nanty dit succès. Au box-office et partout où elle passe. Aujourd'hui, Isabelle Nanty, c'est Tati Daniel, c'est Cathy Tuche et Gabriel Munch, sans parler de sa présence entre autres dans Amélie Poulain, on l'a dit. Autant dire qu'Isabelle Nanty est entrée au moins une fois chez tous les Français. Tous les Français qui lui rendent bien en l'élevant parmi ses actrices préférées. Sans doute parce que derrière le masque du talent, derrière la magie de l'actrice, se cache une femme au grand cœur. Et vous remarquerez que je ne suis pas du tout du genre à cirer les pompes des gens pour obtenir quelque chose. Hein, pas de ça chez moi, on se connaît pas Isabelle, mais pour vous séduire, j'en connais plus d'un à ma place qui vous aurait fait un papier élogieux. Moi, je resterai objectif et factuel. La légende raconte qu'au moment de mourir, Molière en personne aurait déclaré deux choses. Dites à tout le monde que j'étais sur scène, parce que mourir dans un bar à pute pour la légende, c'est pas tip top. Et deuxième chose, surtout, dites que mon seul regret dans la vie, ce n'est pas d'avoir vécu à l'époque d'Isabelle Nanty. Bon, ok, là j'en fais peut-être un petit peu trop, mais le message est passé. Il est engagé, il est à contre-courant. Je pense que c'est la première fois qu'on vous le dit. Je suis dans l'ivérance la plus totale. Oui, je vous aime, Isabelle Nanty. N'en parlons plus, Isabelle, je vous envoie le texte dans quelques semaines. J'étais ravie de vous rencontrer.
Je vous donnerai mon adresse.
Vous n'auriez pas envie de jouer à la Comédie Française, Isabelle Nanty? Ce ne serait pas une revanche, vous qui avez raté le conservatoire?
Non, je ne crois pas.
Non?
Parce que...
Si vous proposez une participation exceptionnelle, vous ne diriez pas non.
Mais ça ne se fait pas.
Ouais.
Non, par respect pour justement le rythme qu'ont tous les acteurs et les actrices là-bas, le dévouement, et à chaque fois une curiosité, enfin une implication. Non, on ne vient pas en touriste à la Comédie Française, je crois.
Alors vous étiez dyslexique, dyspraxique, dyscalculique
et dystilbène. Mais ça n'a rien à voir.
Donc beaucoup de soucis à l'école, du coup.
Ah ouais, ouais.
Ça a été terrible.
Ah bah moi j'ai été dyspensée de maths.
Dispensée de maths,
ouais.
Ça c'est une aubaine.
C'est génial. Ah,
c'est génial. Dispensée de maths en troisième et bon j'avais le droit de faire d'autres trucs dans la salle au fond. Mais je regrette beaucoup de ne pas m'être accrochée aux maths parce que ça me rattrape tout le temps ça, ce manque de
rigueur.
De rigueur, de logique, ouais. Ouais.
Ne serait-ce que pour rendre la monnaie.
Alors ça va. C'est marrant parce que c'est venu plus tard par obligation. Mais heureusement. Ouais, heureusement.
Vous avez fait des petits boulots, Isabelle Nanty, vous avez tout de suite été actrice.
Ah. J'avais des fantasmes d'enfant comme ça. Je voulais être serveuse, alors j'ai commencé par vouloir emballer les paquets à Noël j'ai pas tenu une heure parce que le scotch s'accrochait au papier et déchirait le papier, donc il fallait recouper un truc. Enfin bon, j'étais nulle. Donc les petits boulots, j'ai pas été capable de le faire. Le premier vrai petit boulot, j'ai été machiniste. Non, j'étais poursuiteuse avec Éric Tarot au Théâtre Antoine.
Bah, je me souviens.
Voilà.
J'avais vu.
Ouais.
Et vous vous tripotiez un petit peu.
Ah. Oh, mais non, mais... Non, mais non, attends. Alors là, j'étais là, excuse-moi, je m'en rappelle très bien.
Théâtre Antoine, là-haut.
Oui, oui, et là-haut. Ben moi, j'étais voir Huster et je vous ai vu à la poursuite. Et vous... Alors, et la non, poursuite, elle battait de...
Non, non. Hein? Alors, vous pensez qu'on se tripotait parce que la poursuite hochait un petit
oui,
peu comme ça.
Ça.
Car, je vous explique, on était deux poursuites et il fallait que les poursuites
non, sérieux,
soient ensemble.
Se rejoignent.
Or, on se racontait des blagues. Et donc,
ça
on rigolait et c'était très, très sensible, ces poursuites.
Ouais,
et un jour, Huster, pour nous faire une blague, il a quitté la poursuite Et il, comme c'était le seul éclairage, il s'est retrouvé, il a attendu. Et tout d'un coup, on a regardé et il n'était plus dans la poursuite. Et donc, on a fait les miradors comme ça. On a balayé la scène pour le retrouver. Il était en coulisses, il s'était planqué.
Léa Lando a des questions à vous poser.
Isabelle Nanty, vous êtes parmi nous donc, pour la pièce de Fedo, l'hôtel du libre-échange. Et ne me demandez pas pourquoi, je vous ai préparé une interview échangiste. Okay.
Ah ouais.
Donc, voilà.
On reste dans le tripotage.
On reste dans le tripotage.
Bien sûr.
Si vous pouviez, par exemple, échanger votre vie à Paris contre une vie ailleurs, ne serait-ce que quelques jours, ce serait où ?
Ah ben, en Norvège.
Ah ouais ?
Ouais.
Ah. Je vous vois bien avec un Norvégien, moi.
Ah bon ?
Ouais.
Bah, dites-leur.
Vous êtes jamais sorti avec un Norvégien ?
Non.
C'est vrai ? Ah, si ! Et c'est vrai que vous avez un cousin qui joue dans Game of Thrones ? Oui. Je voulais la placer depuis tout à l'heure.
Christopher Eveu.
Qui joue Tormund.
Ouais.
Ouais.
Bon, c'est le fils de ma cousine.
Et alors, si vous deviez le temps d'une journée échanger votre vie avec quelqu'un, avec celle de quelqu'un autour de cette table, ce serait qui, Isabelle Nanty ?
Prenez pas la mienne. Hein.
Juste pour voir si vous avez de la chance.
Dites-moi pourquoi.
Non, bah, c'est fade, moi, c'est fadasse.
Ah bon ?
Oh, oui.
Vous ennuyez ?
Oh oui.
Pourquoi ?
Oh, bah, moi, je suis marié, une femme, deux enfants. Là, là,
c'est... Ah, c'est ennuyeux ?
C'est ennuyeux.
Oh, là, il manque plus qu'une mégane scénique et une corde.
Il y a beaucoup de gens qui rêveraient de tout
mais
ça.
Mais elle a une femme magnifique.
C'est que j'embrasse et qui m'écoute, malheureusement.
Voilà. Isabelle Nanty, si vous aviez pu changer qui vous êtes dans la vie avec un de vos personnages que vous avez joué, ce serait lequel ? Tati Daniel, celui de prof ou des tuches, ce serait lequel ?
Aucun.
Aucun ?
Oh bah non, c'est justement ça qui est marrant, c'est qu'on met le pire de soi dans tous les personnages, ou en tout cas des secrets, c'est complexe, Voilà, donc en fait, on se soigne. On les évacue dans les personnages.
Dans les persos.
Ah non.
Et vous seriez prête à échanger une nuit seule dans un hôtel de luxe contre une nuit à deux dans un vieux rad ?
Une nuit seule dans un hôtel de luxe contre une nuit à deux dans un
vieux rad ?
Oh bah non, l'hôtel de luxe ne m'intéresse pas.
Ouais. Oh, il vaut mieux être deux.
Bah la nuit à deux, c'est.
Ouais. Ouais, bah ouais.
La vie à deux.
La vie à deux.
Bah ouais.
Vous aimeriez vivre avec quelqu'un ?
Que vous dites moi, je suis hyper facile à vivre.
Mais vous dites, je n'ai jamais rencontré quelqu'un
c'est
ayant
un
eu
message.
Envie.
Hyper facile à vivre.
Vous dites, je n'ai jamais rencontré quelqu'un ayant eu envie de partager ma vie. C'est vrai, ça ?
C'est vrai.
Vous avez des tas d'histoires d'amour, quand même.
Oui, mais jamais personne n'a voulu partager sa vie avec moi. Mais bon, on ne va pas faire ma...
Allonge-toi,
Isabelle. Allonge-toi. Non, mais ce n'est pas grave. Non, mais franchement, je n'ai pas de frustration.
Ça va venir.
Mes frustrations, ça c'est sûr. Non. Avec la hanche en plastique et le.
Ça va venir avec un Norvégien. Allez en Norvège, vous allez
c'est
voir.
C'est vrai, vous êtes un peu voyant ?
Oui, très vite fait. Qu'est-ce que vous avez en double dans la vie que vous aimeriez changer si c'était possible, Isabelle Nanty ? J'ai posé la même question à une amie, elle m'a dit mes gosses.
Mes seins.
C'est vrai ?
Oh ouais.
Pourquoi ?
Bah, je les ai en double. Déjà.
C'est mieux.
Et puis voilà, ouais.
Vous pensez que Anne Romanoff ferait une super bonne Tati Daniel si on faisait un numéro 2 ?
Non. Non.
Qu'est-ce qui lui manque ?
Elle ferait pas une bonne Tati Daniel. Non, elle ferait une Mamie Gâteau, une...
Les gâteaux, oui. Il va pas en rester grand-chose. Hein.
Bah oui, justement. Non, moi j'aimerais bien jouer avec Anne.
Ah ouais ?
Ouais.
Plutôt aussi, théâtre ou
je sais pas. Pour le moment, moi je peux pas jouer au théâtre parce que j'aimerais bien quand même être chez moi le soir. J'ai une fille avec qui j'aime bien être le soir.
D'ici donc, combien de temps ?
Mais dans... Ouais, ben dans 3-4 ans.
3-4 ans, une pièce pour toutes
les
deux ?
Ouais, ouais.
Ok,
plaisir.
On part ça
ouais,
pour
ouais.
La table 12. Allez, c'est
allez.
Journaliste, réalisateur, scénariste, producteur. Il y a des hommes qui aiment le 5 à 7, lui il est plutôt 7 à 8. Journaliste, il a marqué l'histoire de la télévision en devenant le premier homme de couleur à présenter le 20h sur TF1. Homme de terrain, il s'est longtemps trouvé en immersion, également producteur et réalisateur. En 2017, est sorti son film Fracture dont il va nous parler aujourd'hui. Le bienveillant mais néanmoins très sérieux Harry Roselmack est avec nous ce matin sur Europe 1.
Vous avez dit quelle date pour le film ?
J'ai
c'est
dit,
pas 2007, hein.
J'ai dit 2017.
2017, pardon.
Ouais, je vais me faire
en tout
engueuler.
Cas, homme de terrain, homme de couleur, je me reconnais bien. Je suis un homme, donc je me reconnais bien dans cette définition. Merci.
Bonjour Harry Roselmack, bienvenue
bonjour.
Sur Europe 1.
Ravi d'être là.
J'ai vu que vous faisiez beaucoup de choses, mais surtout vous êtes ceinture noire de judo. on peut quand même faire de l'humour avec vous. Je veux dire, je peux vous poser des questions un peu taquines ou il vaut mieux pas pour ma santé, celle de mes chroniqueurs.
Non, non, vous pouvez poser toutes les questions, il n'y a pas de souci. Ça apprend la sagesse, le judo.
Ah oui ?
Donc, on est censé savoir se défendre, mais...
Se canaliser aussi.
Se canaliser, surtout.
Arrête, Osama, que vous venez nous parler de votre film Fracture, qui raconte l'histoire de deux êtres humains blessés par la vie, dont la chute va mener à un acte terroriste. C'est une comédie ?
Bah, y a un projet d'acte terroriste. Il n'y a pas d'acte terroriste et c'est justement un.
Donc c'est un film de cinéma.
Le réveil de deux humanités.
C'est un film de cinéma qui n'est pas sorti au cinéma, qui est sorti uniquement sur Internet. Et là, il y a le DVD qui sort.
C'est ça. C'est un film, pas de cinéma en l'occurrence, puisqu'il n'est pas sorti au cinéma, mais c'est un film de fiction avec un scénario, avec des comédiens, avec une histoire, une intrigue et un propos aussi. Et il est sorti effectivement sur Internet et en DVD.
Quand vous avez été voir des gens pour trouver des financements, vous attendez pas, vous, Harry Roselmack, à faire une fiction dramatique en fait, parce que c'est dramatique.
Oui, c'est dramatique, c'est un thriller un peu psychologique, mais il est positif. Hein. Il était d'ailleurs sélectionné comme tel l'an dernier à Cannes, à la semaine du cinéma positif. Mais c'est vrai que j'ai pas envie, c'est compliqué de dire toujours ici en France, etc. Mais c'est vrai qu'on est dans un pays où c'est très compliqué de sortir d'une case. Mmh. Et quand vous êtes dans une case, en l'occurrence celle du journaliste, c'est très compliqué d'aller voir des gens et de leur dire « j'ai une idée de film, j'ai une envie de film et j'ai besoin d'aller au bout de ce projet ». Donc on n'a pas été très accompagné, mais on l'a fait. Et le film tel qu'il existe aujourd'hui, il est comme ce que j'avais dans la tête. Donc je suis content, l'équipe est contente. On a fait ce film, on est arrivé au bout.
Vous avez un prix aux États-Unis ?
À New York, quoi.
Ouais. J'ai eu un prix à New York, ouais, au Chelsea Film Festival, il y a un an et demi maintenant, et ça a été la première sortie publique du film, donc c'était un très bon démarrage.
Ça s'applaudit, ça, quand même, excusez-moi. Ouais.
Et ça vous a donné envie de réaliser d'autres films, Harry Roselmack ?
Ça m'a donné envie d'en écrire et sans doute d'en réaliser d'autres. Parce que c'est quelque chose de donner vie à un projet, à une histoire qu'on a dans la tête, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, Michael, qui est à vos côtés, a été l'un des premiers à lire le scénario, à m'avoir fait un petit
vous
retour.
Vous connaissez
aussi,
cet individu,
Mia. Oh là là.
Média tropical.
Exactement.
C'est-à-dire, je bossais sur une radio FM et Harry était le journaliste dans mon émission.
C'est la première radio dans laquelle j'ai bossé en tant que professionnel.
Et il était comment, Michael Kiroga, jeune ?
Si tu racontes, je raconte. Hein, je te préviens, j'ai du dossier.
Non, mais ce qui est dingue, c'est qu'il était pareil. Enlève ta casquette, peut-être qu'il y a moins de cheveux.
Non.
Ah non, même pas. Non. Bah, il était pareil.
Il était pareil ?
Il a pas changé.
Non, les cheveux, c'est toi.
Ouais, c'est ça.
C'est vrai, vous n'avez pas de cheveux. Non. Moi, normalement, les hommes sans cheveux me plaisent pas, mais alors vous.
Mais là. Tu veux qu'on change de place, arrive peut-être.
Non, mais c'est vrai, je le dis parce que j'ai. Michael lui a dit. Mais moi, quand j'ai vu Harry Roselmack sur le. Oh, bah c'est cool parce que je regardais votre journal, je suis ok, d'accord. Et là, je vous ai croisé dans le couloir et ça m'a fait. Waouh, il est quand même extrêmement beau cet homme, vraiment.
C'est la télé qui rend beau.
Non, mais c'est vrai,
je tiens à souligner que depuis le début de l'interview, Anne a la main dans son corsage.
C'est vrai.
C'est vrai en plus.
Mais non, je ne sais pas.
Mais c'est mon corps qui parle.
Pour vous donner une petite idée, les beaux gosses de l'émission.
Voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a de la marge. C'est-à-dire, demain, elle croise un épagnol, elle va le trouver bon. Il n'y a pas de souci.
Ben, vous parlez des fractures de la société française.
Yes. Harry Roselmack, vous êtes avec nous pour la sortie donc, du DVD de votre film Fracture. Film dont je ne dirais que du bien. Déjà parce que vous êtes ceinture noire de judo et que si les fractures pouvaient rester un film et non un diagnostic, ça m'irait parfaitement. Mais rassurez-vous, je n'en dirais que du bien de ce film pour plein d'autres raisons que celle évidente de la peur. Je soulignerais par exemple la diversité dans le casting. En effet, il est encore très rare dans le cinéma français actuel en 2019 de voir un casting sans Cadmera des François Berléand. Et ça fait plaisir. À la place, il y a des comédiennes et des comédiens talentueux de tout horizon, des noirs, des arabes, des asiatiques et qui, une fois n'est pas coutume, ne sont pas là du tout parce qu'ils sont noirs, arabes ou asiatiques, mais juste parce qu'ils sont comédiens. C'est tout con, hein. Ça a l'air tout con comme démarche, hein, mais mettre autant de couleurs dans un film sans humour communautaire ni Christian Clavier, c'est pas loin d'être une première en France. Mais votre film, Harry Roselmack, trouve également toute sa qualité de par les sujets abordés et une grande question qui a entraîné tout votre projet, comment faire
cohabiter autant d'identités dans la société, comment éviter les fractures et surtout comment vivre ensemble, se comprendre, se respecter dans la différence. Votre film souligne notamment le problème de fracture identitaire à travers la radicalisation religieuse. Mais aujourd'hui, bon nombre d'autres fractures sont à déplorer dans notre pays. On peut parler de cette fracture millénaire entre les riches et les pauvres. Le problème, c'est que année après année, là, c'est plus une fracture, c'est carrément une amputation, une amputation de salaire baptisée impôt à la source. Dès le début du mois, on ampute. L'impôt à la source, c'est comme la circoncision, on s'y prend très très tôt et ça fait mal plusieurs semaines. Une autre fracture également, celle qui oppose les jeunes et les vieux, une fracture qui oppose des gens qui parlent fort et des gens qui sentent fort, deux communautés qui ne se comprennent plus. Les jeunes parlent avec la langue d'Aya Nakamura, les vieux écoutent avec les oreilles de Robert Hossein. Impossible, ça ne passe pas. La fracture entre les gros et les maigres, aussi, une guerre du régime qui fait chaque été plusieurs victimes sur les plages de France. Et en tant que maigre, je ne soufflerai pas sur les braises de cette fracture. Je ne veux pas déclencher une guerre entre gros et maigres. On sait à la fin qui va manger qui. Et je suis perdant. Non, et je ne parle même pas de la fracture entre les hommes et les femmes de plus en plus présente. Je n'en parle pas parce que Christine est à côté de moi. Mais la vraie fracture, mère de toutes les autres, elle n'est pas toute neuve. Elle se situe, selon moi, entre les politiques et les peuples. Toutes ces élites, apôtres médiatiques du vivre ensemble, n'ont de cesse de nous monter les uns contre les autres, scrutin après scrutin, pour servir des intérêts qui viennent creuser, au final, toutes les fractures. Le meilleur remède à la fracture, c'est souvent de mettre un plâtre. Mais dans certains cas, regardez le film d'Harry Rosenmack, Fracture, c'est déjà un bon traitement préventif. Merci de m'avoir écouté.
Et Harry Rosenmack, vous nous parlez de son film dont il est scénariste et réalisateur, Fracture, qui s'est sorti depuis le 7 mai en DVD et qui est disponible sur toutes les plateformes. Alors ce film, c'est l'histoire d'une escort girl qui assume ses choix. La précarité et les violences subies dans son enfance l'ont rendue matérialiste et cynique. Elle n'attend rien des autres et elle rencontre Youssouf, qui est... Alors expliquez-nous.
Youssouf, c'est un garçon qui, comme un certain nombre aujourd'hui, a grandi sans vraiment avoir de racines identitaires fortes. Et c'est quelqu'un qui est confronté à une petite délinquance, commet un acte irréparable, qui l'envoie en prison. Et c'est en prison qu'il se radicalise et il en ressort complètement différent, avec un projet de destruction de notre mode de vie, un projet d'attentat. Et sur ce bateau où il se retrouve avec Faria, il a son matériel prêt à tout faire sauter. Et il va se retrouver enfermé dans une pièce de ce bateau avec l'escort girl Faria, qui est l'héroïne de mon film. Et c'est la discussion entre les deux qui va un peu décider du sort de l'ensemble. J'ai voulu, comme dans une fable, réduire la France, la société française, à une micro-société sur un bateau. Il y a d'autres personnages qui sont un peu des archétypes des radicalités qu'on retrouve aujourd'hui dans notre beau pays et qui se confrontent. Et ces deux-là, c'est vraiment la confrontation qui va décider un peu du sort de tout le monde.
Harry Rosenmack, votre père était policier, votre mère agent de police.
Agent de la poste.
Ah, pas vraiment, c'est marrant.
C'est la police qui l'amène au courrier le matin.
Studio, Anne, ah, dis donc.
Ah, là, c'est jamais vu comme ça.
Hein. Ah, on peut plus, Anne.
Jamais. Alors, Harry Rosenmack.
Alors, vous êtes né de la police, finalement. Non, pas que. De la police et de la poste.
Et ça va se terminer. Alors, Harry Rosenmack, sachant que mon numéro, c'est le 06. Ça va se terminer comme ça, quoi.
Non, et alors, ils vous ont dit qu'il fallait. Quand vous avez dit que vous vouliez faire ce métier, vos parents vous ont dit qu'il fallait que vous travailliez plus que les autres pour vous imposer.
Alors ça, c'est ce qu'ils me disaient à l'école quand j'étais petit, avant que je décide d'être journaliste. C'est l'une des rares choses qu'ils me disaient qui me faisait ressentir ma différence. Enfin, le fait que j'étais noir dans un pays majoritairement blanc, c'est que mes parents me disaient: Harry, comme il disait à mon frère Willy et à ma sœur Peggy, il faut travailler à l'école, il faut travailler plus que les autres parce que ce sera plus dur pour toi. Alors je ne sais pas si ça l'a vraiment été au final, mais c'est vrai que c'est quelque chose peut-être.
Ouais, je l'ai entendu aussi.
Ouais, c'est
des parents
qui prévention. Ouais, des parents,
c'est les parents qui ont conscience, ils te regardent, ils disent ouais, on est, ils disent tu vas galérer, il faut que je t'explique. C'est un petit peu ça en fait.
Et vous avez galéré, vous avez la sensation de galérer, Harry Rosenmack, parce que finalement vous avez réussi assez vite quand on regarde votre parcours.
Non, j'ai pas eu la sensation de galérer. Je sais qu'il y a eu des choses qui ne se sont pas faites en raison de mes origines au début des années 90. Ensuite, ces origines et ma couleur de peau m'a servi au début des années 2000 et en 2007 notamment, en 2005 notamment, je veux dire, après les émeutes, il y a eu toute cette prise de conscience d'un besoin de diversité. Et certainement, et je ne m'en cache pas et je n'en ai pas honte, que mon recrutement à TF1 et dans cette espèce de prise de conscience, de mouvement qui doit continuer, parce que malheureusement, c'est pas parce qu'il y a eu un geste de fait que les questions sont réglées.
Mais, vous trouvez qu'il n'y a pas assez de diversité dans les médias français, Harry Roselmack ?
Bah, il n'y a pas assez de diversité dans tous les métiers de représentation, que ce soit les médias, que ce
les
soit
comédiens.
Dans l'acting, que ce soit en politique, tout ce qui donne l'image de ce pays.
Vous dites qu'aux
États-Unis,
c'est beaucoup plus avancé.
Je constate qu'aux États-Unis, il y a eu, parce qu'il ne faut pas tout attendre de la politique ou du pouvoir central. Il y a aussi le rôle des communautés en question. Et longtemps, nos communautés noires, maghrébines, nos communautés venues de l'ailleurs, n'ont pas eu conscience d'un besoin de se mobiliser et de parler et de prendre la parole pour obtenir des choses. Et force est de constater que les États-Unis, qu'aux États-Unis, dans un contexte différent, puisqu'aux États-Unis, il y a quand même eu la ségrégation, il y a eu une mobilisation des communautés qui a donné des résultats que nous, on n'a pas eu aussi de notre faute. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut garder en mémoire.
Et vous faites des choses, vous, pour lutter contre les discriminations, pour aider les autres, Harry Roselmack ?
Tout ce que je fais, c'est pour créer du lien entre les gens. Moi, je ne suis pas... je ne veux pas jouer les uns contre les autres. C'est les uns avec les autres que ça marchera. Et je pense... J'ai rencontré ces dernières semaines deux jeunes journalistes noirs qui m'ont dit « On est devenu journaliste grâce à toi après t'avoir vu aux 20h. » Alors bon, ça m'a mis un petit coup de vieux, mais en même temps, c'est ça qui compte. C'est que ce que tu fais inspire d'autres et que ça fasse changer les choses petit à petit.
En fait, elle voulait juste savoir si tu sortirais avec une fille claire de peau. Hein, c'est tout ce qu'elle...
Alors, dans vos débuts, Harry Roselmack, vous êtes intervenu dans l'émission politique France Europe Express, présentée par Christine Ockrent. Qu'est-ce que ça fait quand on débute dans le journalisme, qui était à l'époque encore plus qu'aujourd'hui un monde d'hommes, d'être dirigé par une femme ?
J'ai beaucoup été dirigé par des femmes avec un grand bonheur, parce que Catherine Nel, qui a longtemps été la directrice de l'info de TF1 et qui a été ma première rédactrice en chef quand je suis arrivé en juillet 2006 au JT de TF1, c'était elle, donc j'ai souvent travaillé avec des femmes. Et à la rédaction de TF1, il y a d'ailleurs plus de femmes que d'hommes.
Et comment tu fais ? Parce que moi, je m'y fais pas.
Comment elle était, Christine Ockrent ? Elle était aussi charismatique que moi, moins, plus.
Un peu plus blonde, mais tout aussi charismatique.
Oh. Mais vous savez, oh là là, mais.
Anne, il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup et que j'ai rarement rencontré, et qui est un peu troublant, c'est quand vous posez des questions à vos invités, vous les regardez, en plus vous les regardez dans les yeux. Ah ouais. Enfin, alors moi que ce soit pour... Ce sera un traitement qui me soit...
Il y a quand même un petit changement par rapport à...
Parce que des fois, il y a des gens qui posent des questions, après ils regardent leurs feuilles, ils sont en train de penser à la suite, non ?
C'est-à-dire, la dernière fois qu'on l'a vu sourire autant, c'est à la naissance. Hein.
Harry Roselmack, vous avez aussi créé une marque de cosmétiques Neoclem, l'expert des peaux denses, mates et foncées. Aussi, vous faites plein de trucs en fait.
Ouais, ça c'était ma première boîte. Je me suis lancé là-dedans en 2009 après avoir rencontré quelqu'un. J'aime créer, j'aime me lancer dans des aventures en plus si elles ont une dimension humaine.
Mais vous faites énormément de. Enfin, je disais que depuis 4 ans vous êtes pom pom girl. Enfin, c'est quand même. C'est quand même.
À partir du moment où il y a une dimension humaine,
le contact.
Christine Béroux a des choses à vous dire, Harry Roselmack.
Harry Roselmack, je suis ravie de vous rencontrer parce qu'on a un point commun. Vous êtes sur TF1 et moi, je suis pas mal sur TFI, Twitter, Facebook, Instagram. On est presque collègues, en fait. J'avais aussi postulé pour présenter les infos, mais ils prennent que des gens vraiment très, très, très beaux. Non, mais c'est vrai, il n'y a qu'à voir sur BFM, tout le monde a les dents blanches.
Il y a un petit
particulier. Est-ce que non, mais arrêtez.
On peut lui ramener sa ventoline.
Non, parce que vous savez, sur BFM, ils ont les
dents
blanches.
Arrêtez,
plus,
ce
que j'ai
dit. C'est vrai.
Ah, oui. Elle a une fille qui a les mêmes yeux en plus.
Je n'ai pas de fille, je suis célibataire.
Ça y est, là.
Quoi, qu'est-ce que vous dites ?
Ma camaraderie,
c'est fini.
Alors, j'avais une blague. Parce qu'en fait, sur BFM, ils ont des dents blanches, des brochettes impeccables. On dirait un feuilleton de l'après-midi, amour, gloire et mauvaise nouvelle. Voilà, tout ça pour ça.
En plus, vous êtes drôle.
Je suis un peu gênée parce que d'habitude. D'habitude, je fais semblant de minauder avec les invités pour leur faire plaisir, mais là, je minaude vraiment.
Et ça fait super plaisir à tous ceux qui sont passés là.
Désolée, Camille Lacour, si tu m'entends, mais en fait, tu n'étais pas mon style. C'était pour la chronique. Mais on m'a demandé de faire un quiz. Alors, Harry Roselmack, on m'a demandé de poser des questions. Je me suis donc inspirée de l'actualité pour connaître votre métier. C'est l'interview, ça.
On l'a perdu.
Ah non, mais là,
c'est l'interview, ça reste entre news. Alors.
Hey, vous pouvez applaudir parce qu'elle était fière du jeu de mots.
Oui, excellent. Alors, Harry Roselmack. C'est ça, il y a des questions sérieuses. Aujourd'hui, Emmanuel Macron sera aux côtés du prince Charles, de Donald Trump et d'Angela Merkel pour le 75e anniversaire du débarquement. Et vous, quelles sont les personnes avec qui ce serait vraiment la corvée de passer un anniversaire?
Moi, j'allais surtout vous dire que je préfère être avec vous.
Ok, alors ça va pas être facile, hein. Ça va pas être simple. Alors, Laurent Wauquiez a quitté la présidence des Républicains. Est-ce que vous avez déjà quitté quelque chose ou quelqu'un à regret? Moi, ça compte pas parce que vous êtes pas encore parti du studio. Donc,
Je dois répondre?
Oui, parce que ce sont des vraies questions, en fait, j'ai travaillé.
D'accord. voilà. Est-ce que j'ai déjà quitté des gens, quelqu'un à regret? Oui, évidemment.
Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'environnement. Vous faites quoi contre le réchauffement climatique? Pas grand-chose, parce qu'il fait quand même très chaud dans ce studio. Depuis que vous êtes là.
Non, mais ce sont des choses, évidemment, qui sont hyper importantes. Après, j'essaye de trier mes déchets.
C'est très bien. Dernière info. Aujourd'hui, Anne Romanoff, vous recevez Harry Roselmack. Qu'avez-vous pensé de l'émission et de sa chroniqueuse?
J'ai adoré. Je vais faire un rapport en sortant.
Vous étiez un invité très agréable, Harry Roselmack.
Ah oui.
Très agréable.
Vous étiez une hôte très agréable et votre équipe
très
également.
Très
merci beaucoup.
Ah oui, non, mais on se sent bien. Hein.
Non, mais je vous en prie, madame la marquise. Gnagnagna. Arrêtez.
C'est incroyable.
C'est bizarre. Hein.
Nous sommes très heureux de recevoir celle qui est notre meilleure amie depuis une dizaine d'années. Une chanteuse à qui demain appartient. Celle qui nous livre un témoignage bouleversant avec son recueil de nouvelles « Les choses de ma vie ». Celle qui nous a enseigné la positive attitude. Celle qui nous a été présentée comme la petite cousine française de Britney Spears. Celle qui, comme nous toutes, a besoin d'amour ce midi. Mademoiselle Laurie Pester est notre invitée.
11h30. Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Bonjour Laurie.
Bonjour.
Alors maintenant, il faut dire Laurie Pester.
Oui, bah, pas tout le temps.
Mais Pester, c'est bien comme nom.
C'est j'ai pas choisi, hein. C'est mon nom de famille.
Parce que dans ça. Pester, il y a peste.
Ouais, ça me va bien. Hein.
Non, je sais pas. Je vous demande.
C'est ma face cachée, ouais, non.
Alors, vous n'êtes plus seulement Laurie, mais Laurie Pester, comme Zabou n'est plus Zabou, mais Zabou Breitman. Alors, vous avez grandi, Laurie, sous les yeux du public, et la petite jeune fille blonde a fait place à une femme séduisante et épanouie.
C'est pas le matin, là.
Alors, après avoir voulu être patineuse artistique, Laurie, c'est vers la chanson que vous êtes tournée très jeune, avec succès, et vos mélodies ont séduit toute une génération.
Oh là là. Ah là là, ah, Jérémy connaît par cœur.
Ouais. Ils la connaissent tous par cœur.
Hein. Bah oui, je vois ouais. Ça fait plaisir.
Non mais moi cette chanson m'a beaucoup marquée parce que quand une amie n'est pas là pour moi, par exemple quand je lui raconte les dernières péripéties de mes histoires de cœur et qu'elle me dit excuse-moi Anne, je suis en voiture, je te rappelle sur le supermarché, je me dis vraiment que ça n'est pas. Hein, est-ce que vos amis sont toujours là pour vous, Laurie? Vous
ouais.
C'est vrai?
Ouais ouais, j'ai des amis qui étaient là avant Laurie. Et voilà, c'est mon petit groupe.
Il vous appelle Laure ?
Il m'appelle Laure, ouais. C'est mon vrai prénom. Ouais.
C'est pas tellement différent, Laure Laurie.
Non, c'est ça.
C'est à cause d'une prof d'anglais qui n'arrivait pas à prononcer votre nom au lycée ?
Exactement. Non, c'est qu'en fait, au collège, on avait eu pendant quelques semaines une prof qui venait vraiment d'Angleterre. Et moi, j'étais un petit peu vers le fond de la classe et je papotais avec ma copine. Et j'avais pas compris que la prof m'appelait depuis tout à l'heure. Parce que Laure, en anglais, c'est Laurie, ouais. Avec le E. Et donc, Laurie, elle voulait me poser une question. Et puis bon, j'écoutais pas trop, je me suis fait un petit peu gronder. Et après, en récréation, ma meilleure amie justement m'a dit bah tiens voilà je vais t'appeler Laurie, ça va devenir ton surnom.
Laurie, j'aimerais bien avoir tout le temps dans la vie la positive attitude. Ouais. Mais je n'y arrive pas. Par exemple, quand on a un échec amoureux, il faut pas dire quel connard d'abruti de merde, mais cette expérience m'a fait grandir.
Exactement.
Mais moi, j'ai rencontré tellement de connards que je suis très grande. Du coup, j'ai du mal à trouver un homme à ma taille. Et vous, Laurie, avec les hommes, vous avez rencontré des connards ou vous avez des expériences qui vous ont fait grandir?
Alors, au départ, on pense tous que c'est des connards, mais après, voilà, j'ai grandi, moi aussi. Ouais,
ouais vous ouais, avez grandi. Ouais, et maintenant, vous êtes heureuse.
Maintenant, je suis heureuse, ouais.
On sent Ben H qui veut intervenir. Il est chaud, il y a un truc qui se passe.
Moi, je suis sans voix depuis qu'elle est rentrée dans le studio.
Il est en passion pour...
Il a mis son plus beau sweat pour vous, vous rendez compte.
Et il s'est lavé aujourd'hui.
Ah, j'ai la chance.
Et il s'est fait un brushing.
Oui. Non, c'est grand jour, le jour.
Tout ça n'arrive pas. Parce que dans votre livre, vous êtes dur avec vous-même. Vous dites que vous êtes un piège pour un homme, que vous les détruisez.
C'est pas grave. Je suis solide.
Est-ce qu'on peut faire entrer un agent de la sécurité pour le tenir?
Ma vie amoureuse est soumise à la même règle que l'électroménager, l'obsolescence programmée. 3 ans, c'est en tout et pour tout ce que durent chaque fois mes relations amoureuses. Au bout de 3 ans, quelque chose se met à déconner et aucun service après-vente n'est capable d'en venir à bout.
Exactement.
C'est vrai ?
3 ans, ça va faire trop pour Ben H. Ouais.
Et là, vous en êtes à combien alors ?
Ah ben, je préfère pas dire. Ça va porter malheur.
Et vous dites, ne tombez pas amoureuse de moi. Je vous préviens, je suis un piège, une bombe à retardement. Je m'auto-détruis. Je détruis tous ceux qui se trouvent autour de moi. Arrêtez, faites demi-tour, vous allez souffrir. Exactement. Je vais vous faire du mal.
Mais comment ?
Et sinon, ça va, Laurie ?
Mais comment ? On a du mal à croire ça quand on vous voit avec vos jolis petits yeux bleus.
Mais
tout
ouais,
ça.
Mais en fait, c'est la vie d'artiste, c'est pas évident, quoi. Parce que je suis jamais chez moi. Moi, je suis toujours dans un train, dans un avion, sur une série, à un concert.
Tout pareil.
Voilà. Et donc, pour essayer de construire quelque chose, c'est vraiment pas évident, quoi.
Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous êtes dans les mémoires collectives de tous, par exemple, tout regarder
Jérémy, il a encore les posters, hein.
Non, mais on a grandi avec Laurie. C'était les booms, c'était, enfin, je veux dire...
T'as eu une enfance difficile, toi.
Compliqué, Laurie, d'avoir été connue si jeune, de grandir sous les yeux du public quand on a envie de proposer des choses différentes à un moment.
C'est un peu compliqué parce que les gens ont toujours envie de vous voir comme ils vous ont connue, toute petite, avec des dreadlocks sur la tête, des paillettes sur les yeux et à chanter ta meilleure amie en fait. Voilà, je pense que c'est les souvenirs. T'as pas le droit de bouger de cette image-là.
Ça vous sort par les trous de nez cette chanson maintenant, Laurie ?
Non, pas du tout.
Non.
Non, pas du tout. Au contraire, non, j'en suis très fière.
Ouais.
Ouais. Je la chante même en concert et. Je finis le concert par ça, avec un désarrangement beaucoup plus jazzy, on la reconnaît pas du tout au départ, et je commence la chanson, mais je la termine pas.
Laurie, il y a Ben H qui a des choses à vous dire.
Laurie, s'il y a bien une fille avec qui je n'ai aucune chance, c'est vous.
Ah, et mais les autres non plus.
Et c'est chiant parce que ça va faire 18 ans que j'attends qu'on se rencontre. 18 ans où je vous jure que je n'ai touché à aucune fille afin de me préserver pour vous. Ce jour est arrivé, j'ai passé votre bio en large, en long et en travers et je suis arrivé à une conclusion, vous et moi, c'est mort. Ah, désolé, Laurie, désolé, moi aussi ça m'a bouleversé, mais les faits sont là, vous travaillez beaucoup, vous mangez sainement, vous êtes une acharnée du sport, moi je finis de lire cette phrase, je suis rincé. Vous ne buvez pas, vous ne fumez pas, moi je picole comme un trou, je fume comme un pompier, le seul légume que je mange c'est la salade dans le Big Mac. Et de toute façon, on va pas se raconter d'histoire, hein, physiquement, si vous êtes exactement ce que j'aime, à vos yeux, je suis exactement l'inverse. Ah. Non, on va pas se mentir, je suis loin de Garou. Ah, d'un point de vue physique, à côté d'un bûcheron québécois, moi je suis une petite bûche.
T'es une brindille,
c'est
tu
ça, c'est ça, pas votre genre.
Du petit bois.
Ça va. Je découvrais avec Britney Spears à l'époque que pendant la puberté, la musique peut s'écouter avec le slip. Et là, vous avez débarqué dans le paysage musical français, devenant pour tous les puceaux de ma génération la Britney Spears qu'on pouvait croiser chez Monoprix en bas de chez moi, en achetant des yaourts. Vous aimez les yaourts, Thierry ?
Calmez-vous, ouais. Ménage, calmez-vous.
Moi aussi, j'adore les yaourts. Un point commun. Ça va compenser mon alcoolisme. C'est la période où vous n'avez pas de nom de famille, mais des t-shirts trop petits qui vous oblige à exhiber systématiquement une ceinture abdominale qui aurait provoqué, selon la légende, le tout premier régime d'Andrew Manoff. Une période faite de nombreux tubes aux paroles, souvent, on peut le dire, hein, engagées. Hein, par exemple, à 20 ans, on est invincible. À 20 ans, rien n'est impossible. On traverse les jours en chantant et l'amour, c'est plus important. Jean Ferrat, non. Georges Brassens, non. Laurie. Je me moque gentiment, Laurie, parce que quand je vois ce que écoutent les jeunes générations actuelles, vos chansons de l'époque, c'est presque du Renault. Et on embrasse Kinvé, qui nous écoute. Et puis suivront de nombreux téléfilms à succès, quelques films plus confidentiels, Les Enfoirés, des engagements, des émissions de télé, un livre aujourd'hui et un virage musical plus authentique, plus personnel. La meilleure amie est devenue une artiste
artiste présente sans temps mort depuis bientôt 20 ans. Et de vos grandes années à la tête de toute ma génération, vous avez déclaré « Il y a peu, j'ai eu le sentiment à un moment d'être un souvenir d'enfance que l'on rejette. Eh bien, sachez que moi, je serai toujours là. » A priori, nous deux, c'est pas possible, mais sachez-le, Laurie, que vous le savez maintenant, je serai, même si la vie nous sépare, celui qui te redonnera l'espoir. On ne laissera rien au hasard, car tu sais que je resterai.
Alors, Laurie, une réaction à ce portrait, cette déclaration de Ben H ?
Est-ce qu'il a des chances ?
Vous embêtez pas, vraiment.
D'accord.
Ça va être gênant. Je suis au bout du rouleau.
Alors, Laurie, vous restez très jeune en plus, vous avez pas. Vous, vraiment, vous bougez pas.
Ouais.
Ah, bah c'est gentil.
Non, mais c'est vrai, vous êtes très fraîche.
Merci. Non, je pense que ça, c'est peut-être le patinage artistique en fait.
Le fait ça a gelé les choses.
Voilà, le fait de rester 10 ans dans un congélateur.
La glace, ça conserve.
Ça, voilà.
Non, mais ça vous a donné une hygiène de vie terrible.
Oui, le sport, oui. Oui, le sport.
Vous étiez en sport-études et quand vous êtes blessée au ménisque, tout s'est effondré, donc pour vous, c'était très grave. En fait, finalement, vous avez eu du succès comme chanteuse, mais c'était venu suite à une énorme déception à 16 ans.
C'est ça.
C'était des années d'entraînement mis à la poubelle en fait.
Le drame de ma vie en fait.
Vraiment?
À 16 ans. Bah oui, je vivais que pour ça. Je voulais devenir championne olympique. Alors pourquoi olympique, je ne sais pas. Hein. Ça, il y avait les championnats du monde.
Peut-être parce que c'est le top.
Voilà, donc voilà, je voulais être championne olympique. Et voilà, et je me suis pété le genou à 2 mois des championnats de France. Donc,
et vous avez essayé de repatiner par-dessus ?
Oui, bah oui,
et
parce
vous êtes
que moi
blessée.
Je suis
ouais, c'est ça.
Quand j'ai quelque chose dans la tête, voilà, donc je me suis fait opérer et le chirurgien avait dit qu'il fallait attendre 6 à 8 mois avec rééducation. J'ai fait oui, d'accord. Au bout d'un mois, j'étais sur les patins parce que je me suis dit bon, bah les championnats c'est dans un mois, peut-être que si je reprends, je peux peut-être faire quelque chose. Et en fait, bah non, parce que évidemment, je me suis recassé le ménisque et je me suis fait opérer une deuxième fois. Et là, le chirurgien m'a quand même un petit peu secoué en me disant là, je pense que tu te rends pas compte c'est ton corps et si tu fais pas gaffe, tu pourras plus rien faire, enfin plus de sport de ta vie, quoi. Donc là, j'ai écouté, j'ai attendu 6 à 8 mois avec rééducation. Et voilà, après, j'ai repris l'entraînement, mais après, c'était dans la tête.
Après, il n'y a eu plus la chose sacrée.
En fait, j'avais peur de... Quand je prenais l'élan pour faire un saut, j'avais peur de sauter parce que la douleur avait été tellement forte les fois d'avant que j'y allais pas
à fond.
Et
du coup, vous avez renoncé et là, tout de suite, le succès est arrivé dans la chanson.
Ah non, pas tout de suite.
Presque.
Oui, presque. Mais j'ai arrêté, j'ai quand même fait une petite dépression. Hein,
à 16 ans. Vous avez fait une dépression ?
Bah oui.
Mais combien de temps ?
16 ans, c'est une dépression.
Exactement.
15 jours ?
Non, mais en fait, déjà à 16 ans, dès qu'il nous arrive quelque chose, quand on est adolescent, c'est
un drame.
C'est un drame. Nos petits copains nous plaquent, c'est un drame. Enfin, c'est...
Pas même plus tard. Hein.
Oui. Donc à 16 ans, déjà, c'est assez compliqué à vivre. Et vraiment, ça faisait 10 ans que je me levais pour le patinage. Donc voilà, donc il a fallu un petit temps de réadaptation. J'ai eu des parents franchement merveilleux qui ont su trouver les bons mots pour me relever.
Et vous ont dit quoi ?
Bah, ils m'ont dit quelle est la première chose qu'on t'apprend au patinage ? Bah, à tomber. Et la deuxième ? Bah, à se relever. Ok. Bah, aujourd'hui, il va falloir que tu te relèves parce qu'il n'y a pas que le patinage dans ta vie. Dis-toi que ton programme, c'est ta vie. Tu as fait un saut, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, tu te relèves, tu relèves la tête et tu finis ton programme. Donc, tu finis ta vie. Il y a plein d'autres belles choses qui t'attendent. Et réfléchis à ce que tu veux faire. Si tu veux... faire un autre sport, faire de la musique, faire de la comédie, du théâtre ou autre. Et nous, on sera toujours là pour te soutenir. Voilà.
Wow. Oh.
C'est important pour vous de vous livrer. Vous avez beaucoup de témoignages de femmes qui vous remercient d'avoir parlé de ce combat contre l'endométriose.
Oui, exactement. Je fais pas mal de séances de dédicaces en ce moment et il y a pas mal de femmes qui viennent me voir, qui me racontent qu'elles sont dans le même cas.
C'est une maladie qui touche beaucoup de femmes, en fait.
Une femme sur 10.
Oui, c'est beaucoup.
C'est énorme. Ouais.
Vous êtes tombée à un moment sur un médecin qui vous a fait un vrai diagnostic que vous aviez vu plusieurs médecins avant.
Bah oui, c'est
ça fait un peu flipper ça d'ailleurs de se dire ça.
Voilà, il y a encore trop de médecins qui
approximatifs
sont
approximatifs par rapport à cette pathologie.
Voilà, bah en fait quand on vient les voir et qu'on leur dit bah voilà j'ai des règles très 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 douloureuses.
C'est normal.
Normal. Ouais. Bah en fait non. En fait, c'est pas normal.
Ça, c'est le premier signe, en fait.
Premier
symptôme de cette maladie.
Exactement. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment former les gens. Mais c'est compliqué.
Je présente quelqu'un qui a aussi des règles douloureuses, c'est Jérémy. il vous a préparé un petit questionnaire.
Laurie, j'ai été super émue en lisant votre bio parce que j'ai réalisé qu'on avait plein de points communs.
Alors, on est contente.
Non, mais c'est vrai que déjà, on est nés la même année et c'est vrai qu'il y a plein de stars françaises qui sont nées en 82. Vous, Julien Doré, Cécile Cassel, Jennifer et moi. Cherchez l'erreur. Alors, vous avez chanté la chanson qui résume toute ma vie. J'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. C'est ce que j'arrête pas de répéter à Jean-Philippe. Mais rien
n'est fait. Décidément. Je suis pas assez payé pour supporter ça, moi. C'est du harcèlement.
Et vous, Laurie, est-ce que vous avez toujours autant besoin d'amour?
Mais on a tous besoin d'amour. Ouais.
Et est-ce que vous avez trouvé un peu ce qui...
Moi, tout va bien.
Tout va bien. J'ai lu, Laurie, que vous aviez vécu avec les fils de votre ex. Moi aussi, et être beau-parent, c'est un vrai job. Ah bah, le premier jour, je les ai emmenés au parc, j'en ai perdu 2 sur 3. Du coup, je me demandais, vous, quelle belle-mère vous étiez? Plutôt stricte ou plutôt rock?
Les deux, je suis plutôt cool, mais quand même, il y a des règles.
Faut se relever quand on tombe.
Exactement. Il faut terminer le programme.
Termine le programme.
Alors, on l'a dit, vous écrivez « Ne tombez pas amoureux de moi, vous allez souffrir, je vais vous faire du mal ». Vous n'avez pas eu peur en écrivant ça que plus personne vienne vous draguer?
Bah, ça fait un premier tri. Il y a vraiment ceux qui ont vraiment envie qui restent jusqu'à la fin.
Oui, je me suis dit, c'est peut-être une stratégie pour pécho, au contraire. Exactement. Moi, je suis un défi. Alors, vous dites que le 3 semble intimement lié à votre vie amoureuse. Et je vous rassure, hein, c'est le cas de tout le monde. Dans un couple, il y a souvent le chiffre 3 qui revient. Il y a toujours un ou une ex qui rôde, une belle-mère. Il y a aussi le plan A3 dont on rêve tous, mais qu'on ne fera jamais, un Ben H.
Tout va bien.
Vous, Laurie, est-ce que vous
pensez... Moi, si en plus Ben H, je suis encore plus con. Hein.
Tu vas prendre cher,
Jean-Philippe. Faire l'idée tous les deux, mais lui...
J'agrandis le cercle. Alors,
je veux justement pas agrandir le cercle.
C'est élégant comme métaphore.
Vous, Laurie, est-ce que vous pensez vraiment que l'amour dure 3 ans?
Je l'ai pensé à un long moment, et là je suis bien partie pour...
Ah, voilà. Bah, je vous souhaite le meilleur et...
Exactement, on se relève et on y va.
Et on finit le programme. Bah, écoutez, je souhaite en tout cas que votre succès dure le plus longtemps possible. Merci beaucoup.
Merci. Bravo.
Auteur de la célébrissime série L'Arabe du futur traduite dans 22 pays, il vient de publier Les Cahiers d'Esther, Histoire de mes 13 ans, 4e tome de la série, où il se fait le porte-voix d'une jeune fille d'aujourd'hui pour assister année après année à ses transformations et montrer l'évolution de notre société. Elle a aussi écrit et réalisé plusieurs films. Pas besoin de vous faire un dessin. Applaudissements pour Riyad Satouf. Ouais. Bonjour Riyad Satouf.
Bonjour Anne Romanoff.
Vous attendiez à ce succès quand vous avez commencé Les Cahiers d'Esther?
Ah non, pas du tout. C'est difficile de s'attendre à un succès. Mais enfin, j'espérais quand même que les gens aiment. J'espère que les gens vont lire mes livres quand même.
Ouais.
Quand je les fais.
Ouais.
Je les fais pour les gens. En tout cas, je fais mes bandes dessinées pour des gens qui.
Alors, il paraît
pas
que cette Esther, elle existe vraiment, mais elle s'appelle pas Esther.
C'est un de ses prénoms, en fait. C'est une jeune fille, la fille d'un couple d'amis à moi, et donc elle me raconte des histoires sur sa vie à l'école, sur ses copines, sur la façon
dont elle voit. Mais est-ce qu'elle a pas perdu sa fraîcheur maintenant qu'elle sait que tout est mis en bande dessinée?
Bah, en fait, je
elle
mets
vous
en scène.
Elle demande pas les droits d'auteur, vous lui faites des cadeaux, comment ça se passe?
Non, je mets en scène, en fait, sa perte de fraîcheur quelque part, ouais. Dans le sens où la BD est devenue super connue. Quand on a commencé, elle s'en fichait un petit peu. Et maintenant, la BD est devenue très connue. Et on lui offre à son anniversaire la BD sans savoir que c'est elle la vraie. Ouais. Et donc là, elle me raconte ça. Elle n'en revient pas. Elle se dit, mais je suis devenue une star ou quoi? C'est quoi le... Donc voilà, c'est vrai que je raconte vraiment le quotidien d'une petite fille. Son quotidien et comment la vie autour d'elle évolue.
En plus,
et
vous avez prévu d'aller jusqu'en 2024, vous l'avez su?
Jusqu'à ses 18 ans, oui.
Mais elle est d'accord?
Jusqu'à présent, oui.
Mais si jamais cette jeune fille, tout d'un coup refusait de vous raconter ses histoires, vous en trouveriez une autre, vous inventeriez?
Non, ou... je pense qu'on arrêterait la série. Je dirais, c'est fini, c'est l'adolescence, la crise d'adolescence. On attend qu'elle soit plus grande, je sais pas. On attend une autre fois. Non, c'est fait très sérieusement. Je voudrais vraiment.
Et vous avez des enfants vous-même?
Alors oui.
Oui.
Tout à fait. Oui, oui.
Ils ont quel âge?
Ils sont très jeunes. C'est des petits, donc ils sont très.
Il est en train de compter comme
quel âge. Non, je sais. Alors quels enfants?
Moi aussi, je suis un mec, hein, je sais très bien ce que c'est. Souvent c'est la femme qui connaît l'âge du les pères, ils savent pas.
Je préfère garder le secret sur Laura. Non, ils ont 5 ans et 2 ans et demi.
Alors en plus c'est rien que le 4e de couverture est très drôle. Je m'appelle Esther, j'ai 13 ans, je suis une vraie personne qui raconte des histoires sur sa vie, Riyad Satouf, le dessinateur, et lui il en fait des pages de BD, il y a 52 histoires dans ce livre, hélas toutes très chiantes et pas du tout réalistes, mais non, je déconne. Elles sont juste trop stylées et fidèles à ce que j'ai raconté. Par exemple, j'ai vraiment fait un selfie avec ma dentiste, une femme subtile et drôle malgré son métier répugnant. Quand j'ai eu un appareil, c'est devenu la couve.
Ah là, bah ouais, c'est vrai, c'est un vrai texto. Ouais, non, c'est fait très sérieusement. L'idée est vraiment de montrer le monde à sa hauteur et à travers son point de vue.
Il y a une touche des droits d'auteur pour ça ?
C'est marrant parce qu'en fait, je crois que c'est un signe que ma bande dessinée marche de mieux en mieux. C'est qu'on me pose de plus en plus cette question.
Oui.
Et c'est vrai. Oui, oui. Mais en fait, alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut pas le répéter parce qu'elle n'est pas au courant.
Ah. Bah, c'est 18 ans, elle va avoir la belle surprise d'avoir de l'argent sur un compte.
Voilà, tu as touché 22 euros. Merci pour ton aide. Hein. Non, mais c'est vrai qu'en fait, elle touche quelque chose, mais c'est secret.
Bah oui, bien sûr.
Mais elle est à l'école, là, elle va pas.
Vous aimez bien garder les choses secrètes. Hein.
J'adore le secret. Ouais, tout à fait.
Vous avez bien fait de venir.
Oui, parce que là, vous allez voir.
C'est pas le genre de l'émission, nous, on veut.
Alors, à 25 ans, vous avez publié le manuel du puceau, Riyad Satouf.
Oui.
Ah. Alors, Ben H, tu l'as lu, ça
oui. C'est mon livre de chevet. Hein.
Ouais, faut le lire, faut le lire plus souvent.
À 26 ans, ma circoncision. 27 ans, retour au collège. Et puis, alors, vous avez inventé un personnage. Un jour, vous avez rencontré un gros blaireau et vous en avez fait une BD. Pascal Brutal, la nouvelle virilité.
Et tout du coup, fait. Mika, tu touches des droits.
ça s'est passé comment, la rencontre? Vous étiez, c'était dans une...
Un jour, en effet, j'ai rencontré un libraire qui s'est moqué de moi, qui un jour est rentré dans mon bureau et m'a fait « Alors, Toutouf, continue à faire ces petites BD ?» Et en fait, Toutouf. Et en fait, je me suis dit alors je lui réponds « ouais, je continue, ouais. » Puis là, il me dit « Ah bah, c'est bien. Allez. » Puis il a claqué la porte, il s'est barré. Et en fait, c'était comme si mon personnage était entré dans mon bureau et m'avait dit « Je suis là. Voilà, fais mes aventures, s'il te plaît. » Et puis il est parti. Et après, j'ai fait Pascal Brutal.
Mais il a su que c'était lui qui vous avait inspiré ?
Ouais, des années plus tard, il a su. Oui. Celle-là, ultra déprimé.
Ah bon ?
Il était très triste. Ouais, parce qu'il était hyper fan de la BD. Et il adorait me voir en me disant oh, « J'adore Pascal Brutal, ça rend un gros, gros blaireau, j'adore !» Et il ne savait pas que c'était lui. Donc c'est assez marrant.
Et alors, il y a eu aussi des petits rôles dans des films, Gainsbourg, Vie héroïque, La guerre déclarée de Valérie Redonzelli, Camille Redouble aussi.
Oui, bon, j'ai pu faire deux films. J'ai fait Les Beaux Gosses, qui avaient bien marché.
Vous avez réalisé,
puis,
oui.
Et puis Jackie au Royaume des filles, mon deuxième film, qui a été un énorme four.
Donc vous ne voulez plus faire de films, Riyad Satouf ?
Maintenant que l'Arabe du futur et les Cahiers d'Esther sont des succès, on me propose de faire des films et tout. Mais
vous êtes très jeune, alors vous avez 41 ans, tout est possible.
Oui, c'est vrai, vous avez raison.
Ouais, puis avec un jeune comédien prometteur.
Mickaël Quiroga a des choses à vous dire, Riyad Satouf.
Alors bonjour Riyad.
Bonjour.
Je suis très heureux de vous rencontrer, très cher Riyad. Ça, c'est marrant quand je dis très cher Riyad, ça fait penser que c'est très cher Riyad, c'est comme ça que Balkany appelle sa maison au Maroc. Donc très cher Riyad Satouf, ravi de vous rencontrer, disais-je, avec votre look de prof de français, votre voix d'adolescent, mais tout de même les tempes qui commencent à grisonner un petit peu. Cher Riyad, je suis désolé de vous le dire, mais vous commencez à perdre un petit peu vos cheveux. Alors moi, je dis ça pour lui, hein, parce que s'il fait rien dans quelques années, il n'y aura plus un poil sur Satouf.
C'est marrant, je dois dire que c'est assez drôle.
Alors vous êtes franco-syrien, vous parlez le français, vous parlez l'arabe, enfin vous parliez l'arabe parce que vous avez un petit peu perdu ça, vous auriez pu le réapprendre. À une époque même, vous avez eu le choix, je crois, entre apprendre l'arabe ou la guitare. Vous avez choisi guitare. C'est vrai qu'à choisir entre les deux pour draguer sur la plage en ce moment, la guitare, c'est mieux. Alors, cela dit, j'aime beaucoup vraiment ce que vous faites. Je suis un fan, l'arabe du futur, j'adore. Parmi vos créations, j'aime beaucoup Pascal Brutal, vous en doutez. Ce mec viril, fier de sa virilité. Comme vous le dites, dans Plus fort que les plus forts, la virilité, c'est mon métier. Ce qui ne l'empêche pas de se taper un rugbyman, le Pascal. Ben, moi, ça m'a surpris et de sa part. Ça m'a moins surpris de la part du rugbyman. Parce qu'il paraît que chez les rugbymen, il n'y a pas que sur le terrain que ça se tamponne. Alors, Riyad Satouf, vous êtes venu nous présenter le quatrième volume des Cahiers d'Esther qui regroupe des histoires que vous a racontées la fille d'un couple de vos amis, que vous avez réalisé en bande dessinée. Vous la rencontrez régulièrement, elle vous raconte ses mésaventures, c'est pas bête. Mais bon, pour l'instant, comme dit l'autre, jusqu'ici tout va bien. Enfin, quand je dis tout va bien, c'est relatif parce que Esther a un gros problème.
Ah bon, qu'est-ce qu'elle a ?
Elle a 13 ans. Traduction, elle a un appareil dentaire, des complexes, de l'acné, ses premières règles, elle n'aime pas son corps. Conclusion, c'est pas une ado, c'est une bombe à retardement. Parce qu'Esther, dans 2 ans, elle aura 15 ans, elle dira plus rien à personne. Elle parlera plus aux adultes et pour ses parents, ce sera le début de l'enfer. Le panneau sens interdit sur la porte, les vêtements tout noirs, la mèche de cheveux sur les yeux. Fini les discussions avec Riyad, elle mettra des wesh partout. Quoi qu'on lui demande, tout ce qu'elle répondra, c'est pff, t'es nul, wesh. Mais le plus souvent, ça sera ouais, de toute façon, vous comprenez rien, vous vous en foutez que je sois heureuse. Bref, il risque de se retrouver dans une ambiance qui pourrait faire regretter au papa de ne pas avoir attrapé les oreillons 16 ans plus tôt. Bref, tout ça, c'est la vie d'Esther, une vie dans laquelle beaucoup de très jeunes filles vont se reconnaître et reconnaître leurs parents, et vice-versa. C'est drôle, il y a des dessins, il y a des bulles, c'est ce que moi j'appelle de la super bonne littérature.